What's up tout le monde, bienvenue sur Blabla Media. Est-ce que Dana White est un vilain boss? Est-ce que Dana White est un tyran? Est-ce que Dana White est très très méchant avec son roadster? C'est ce qu'on va voir ensemble, mais avant ça, DJ, on balance le générique, on voit. Salut à tous, t'as compris le thème du podcast Dana White. Pourquoi je fais un petit podcast sur Dana White? Parce que Luke Rockhold, après sa défaite à l'UFC 278, Usman versus Edwards 2, qui a combattu Luke Rockhold a combattu contre Paulo Costa, a perdu et voilà, il a annoncé sa retraite officielle. Et lors de sa retraite officielle, il a balancé son sac en parlant de Dana White sur l'émission MMA Hour avec Ariel Helwani, journaliste de Sport Combat, où voilà, il s'est lâché, il a vidé tout son sac. Et on va faire un petit débrief de ce qu'il a dit. Et on va étudier ensemble voilà, le caractère de Dana White vis-à-vis de ses combattants. Mais juste avant ça, n'oublie pas de t'abonner sur Blabla Media. Blabla Media est disponible sur toutes les plateformes audio, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer et Tutti Quanti. N'oublie pas de nous donner une éval sur Spotify et Apple Podcast 5 étoiles, une éval 5 étoiles, ça donne beaucoup de force, ça fait gonfler les fibres et ça me permet de continuer un max, avoir un feedback. Aussi sur YouTube, hein, n'oublie pas de t'abonner sur YouTube. Aussi, hein, tu connais le truc, hein, tu partages, tu likes, voilà. Donc. Je revenons à nos moutons. Luke Rockhold a passé à l'émission mardi soir. Sur MMA Hour, et il a vidé son sac en parlant en sale de Dana White. Il disait que il m'a jamais laissé ma chance depuis que je suis rentré à l'UFC. Il a contrôlé les médias. Il était sans pitié, il était jamais un message de soutien, jamais. Jamais du soutien. Il a dit, dès que je suis rentré à l'UFC, c'était en 2012, j'étais champion du Strike Force. J'avais gagné ma ceinture dans la catégorie des middleweight face à Ronaldo Souza. Juste après, je l'ai défendu deux fois contre Cage Jardine et Tim Kennedy. Et après ça, je suis passé à l'UFC en 2012, où même l'UFC a racheté le Strike Force juste après. Sachant que l'UFC a racheté plein de petites organisations, enfin des petites entre guillemets, hein, mais plein d'organisations en dessous pour avoir le monopole. Donc voilà, il s'est dit, ouais, je suis rentré en 2012, il m'a jamais considéré comme un champion, il m'a jamais laissé un message de soutien, de félicitations. Dès que je suis arrivé, alors que j'étais champion du Strike Force, il m'a envoyé au Brésil, en 2012, il m'a envoyé au Brésil combattre contre Victor Belfort. Il m'a dit, je suis arrivé dans une ville, c'était Testoville, tout le monde y était dopé. Il avait perdu au premier round contre Victor Belfort, au premier round, au bout de 40 secondes, là, vous souvenez, hein, sur un coup de pied retourné qu'il a reçu à la tête, là, boum, KO direct, au bout de 40 secondes, 50 secondes. C'était son premier fight à l'UFC. Juste après ça, Victor Belfort a été contrôlé positif à la testostérone. Il m'a pas respecté. Juste en voilà, en parlant de Luke Rockhold et même des autres combattants, je voulais revenir sur un petit sur le fight qu'a fait Luke Rockhold face à Paulo Costa au co-main event de l'UFC 278, Usman Edwards 2. Où j'ai entendu plein de trucs sur les émissions de podcast en France. Tout le monde, la plupart disaient ouais, c'était un super combo, du cœur, il y avait du sang, ils ont rien lâché, ils ont donné leur vie sur, dans la cage, tatati tatata. Si toi t'es fan de MMA, voilà, même si t'es un footeux, un basketteur, ce que tu veux, t'es un fan de MMA, t'as bien regardé les fights en cage, c'est sûr que tu vas apprécier, tu vas dire putain les gars ils lâchent rien, ils donnent tout, ils sont morts, ils continuent, nanani, quel fight, c'était serré, ça s'est joué à deux doigts. Bravo aux deux. Il y a même eu un bonus de Fight of the Night, $50,000, ce combat-là. Mais voilà, si t'as un petit œil bien aiguisé, un bon Sharingan, quand tu regardes bien, et ben pour moi c'est un combat bullshit. Moi j'ai pas trop aimé. Je m'explique. Tu regardes bien, Luke Rockhold, il n'a pas combattu depuis 2018 avant ce week-end-là. D'accord, ça fait 3 ans. 3 ans qu'il n'avait pas combattu. Juste avant ces 3 ans, il avait fait 2 défaites. En 2019 contre Yoel Romero. Et en 2019 face à Jan Blachowicz. Et en 2018 face à Yoel Romero. Quand même, il y a un rendement qui est pas top. Hein. Ça fait un combat par an. De 2019, il arrête, il reprend en 2022. C'est énorme. Qu'est-ce qui se passe entre 2019 et 2022? Il arrête, il y a un problème à sa jambe. C'est pour ça qu'il met un genre de bandage de strap tout au long de sa jambe gauche, il me semble. Parce qu'il y a des problèmes, il devait se faire opérer, même des rumeurs, il parlait de limite amputation, bon, il y a des problèmes de santé, sa défaite face à Bisping, bref, il y a le chaos total dans sa carrière. Il y a le chaos total dans sa carrière. Mais le gars, il n'a pas combattu depuis 2018. Paulo Costa, lui, c'est un combattant qui est quand même actif. Il est beaucoup plus jeune, 30 ou 31 ans. Luke Rockhold, 38 ans. Paulo Costa est considéré comme l'un des top 3, les top 4 de la catégorie des middleweight. Luke Rockhold, il fait même plus partie du top 15. C'est l'ancienne génération. Bon, bref, il a été champion de la catégorie des middleweight, mais ça date, hein, je ne sais plus exactement, mais ça date. Il me semble que ça date 2015. 2015, il a été champion, ça fait 7 ans. Face à Michael Bisping. Face à Chris Weidman. Après, il a perdu contre Michael Bisping. Tu regardes bien. Et ben, pour un mec qui a pas combattu, c'est tout à son honneur à Luke Rockhold. Hein. Quand tu regardes, il a pas combattu depuis 2019. Juste avant ça, il a fait un combat dans l'année en 2019, un combat dans l'année en 2018. On peut dire ça va faire presque 4 ans, 2018 à 2022, presque 4 ans, il n'a pas combattu. C'est énorme. En 4 ans, tu as un bagage. Tes concurrents directs, ils engrangent de l'expérience. Ils prennent de la tactique, du physique, du technico-tactique. Ils évoluent. Le MMA évolue à 2000 à l'heure. 4 ans sans comme ça à l'arrêt quasiment, bah, c'est énorme dans une carrière. C'est énorme. Je rappelle, une carrière, c'est entre 10 et 13 ans hein, au niveau. Hein. Honnêtement, après, ça y est, t'es has-been. Et le gars, Paulo Costa, Il a même pas réussi à le mettre KO, il a même pas réussi à le sonner, au contraire, il a failli même perdre des combos, il s'est pris des crosses en contre, il s'est pris trois belles pêches, il a failli avoir knockdown, et il a été surpris, et ça s'est pas passé loin. Lucrocold, il était mort dès le premier round, il avait les mains sur les genoux, il combattait, il avait la bouche ouverte. Quand il était les phases au sol, il arrivait même pas à se relever. Il envoyait des middle ou il envoyait des crosses. Il se retournait, il fuyait le combat, il lui donnait le dos. Paulo Costa profitait même pas. Alors que le gars, il est plus jeune, plus puissant, il est plus actif que lui. Il a même pas réussi à le finir. Franchement, pour un mec soi-disant knockout power, puissant, taille au couteau. Musclé comme je sais pas quoi, et ben moi pour moi ça veut dire beaucoup de choses, c'est à dire que Paulo Costa qui est dans le top 3-4, ranké à la 6ème, hein, mais bon il fait partie du top 4 on va dire, et ben qui arrive même pas à finaliser avant la limite. Lucrocold qui a pas combattu depuis 2019, et je répète, en 2019 il a fait qu'un seul combat, en 2018 il a fait qu'un seul combat. Donc quelqu'un qui est plus inactif depuis des années, et le dernier combat qu'a fait Lucrocold, il n'y avait pas le coronavirus. La dernière fois qu'il a combattu Lucrocold, il n'y avait pas la France était à peine championne du monde. La dernière fois que Lucrocold y a combattu, j'avais pas encore le permis. C'est un truc de fou. Moi je rigole, hein, j'ai eu le permis en 98. 99, plaisant. J'en étais où? Donc le gars il n'a pas réussi à finaliser. Pour moi ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que Adesanya, le king de la catégorie, le champion, franchement il y a de la marge, il n'y a personne qui peut le talonner. Peut-être Whittaker, voire bientôt Alex Pereira il y aura un futur combat entre les deux. À voir ce que ça donne, parce que Alex Pereira, pour l'instant, il a combattu personne. Sean Strickland, il est, il est 7ème, je crois, mais bon, c'est pour moi, il est bidon. Et après, c'est du hors top 15. À voir contre Alex Pereira, mais sinon, franchement, la catégorie des middle, pour l'instant, Adesanya, il a survol. Il n'y a personne qui peut le talonner. Il n'y a personne. Voilà, petite parenthèse, on tape Paulo Costa. On tatoue. Maintenant, on va revenir sur Dana. Dana White, il s'est lâché Lucrocold, pas d'amitié, pas nana, pas de soutien, jamais de message positif, il m'a jamais respecté dans ma carrière, il m'a jamais considéré comme un champion, il a maîtrisé toute la com de A à Z, tatati tatata. Maintenant, je voudrais voir d'autres fighters qui ont un beef avec Dana White. Je vais vous en donner quelques-uns. Le premier que tout le monde connaît, que tous les Français francophones connaissent, c'est Francis Ngannou. Francis Ngannou, il y a un peu le seum après Dana White. Le premier seum qu'il a eu, qui a commencé, c'est que il devait combattre à Houston, à l'UFC, avant ça, il y a deux bifs qui a pas, deux sommes qui a pas digéré Ngannou. Le premier, c'est que il était actif, il était puissant, il enchaînait des victoires. Il voulait combattre contre Miocic pour la ceinture. Et il était actif, il faisait son taf et tout, il voulait combattre. Et Dana White l'a fait patienter, l'a laissé un peu sur le carreau, sur le tapis. Et il voulait que Miocic termine son combat. Miocic finit son combat, sa trilogie face à DC. Une fois que la trilogie était finie avec DC, parce que je répète, il y avait une victoire pour DC, une victoire pour Miocic. Et Dana White voulait terminer la trilogie entre les deux combattants et après fixer un rendez-vous, un futur combat face à Ngannou. Ngannou n'a pas apprécié, il voulait combattre tout de suite. Et le plus gros seum qu'a eu Ngannou, c'est que il y a eu l'UFC au Texas où Ngannou il devait combattre. Il devait combattre et y a pas, ça n'a pas pu se faire pour problème de voyage, il n'a pas pu se rendre aux États-Unis, problème de papier. Bref, Ngannou n'a pas pu faire le déplacement. Il espérait que Dana White, pour c'était un main event, un combat main event, combat principal d'une carte. Dana White, Francis Ngannou a voulu que annule le combat dû à son faute de déplacement, a voulu mettre un autre combat principal d'une autre catégorie, je sais pas, les middle, les Walter, etc., etc. Et Dana White lui a dit fuck off et il a continué à mettre un combat dans la catégorie des heavyweight et il a mis le fameux combat d'Eric Lewis, Cyril Gane pour une ceinture intérimaire. Et ça, Ngannou l'a jamais toléré. Il a jamais dit yo, je peux pas me déplacer, au lieu de changer le combat principal d'une autre catégorie. Lui, il met ma ceinture, c'est moi le champion, il met ma ceinture en jeu, champion intérim, Derrick Lewis versus Cyril Gane. Et depuis ça, depuis ce temps-là, et ben, il y a le seum face à Dana White. D'autres combattants qui ont eu le seum à bif avec Dana White. Il y a qui encore? Je vais vous donner un autre exemple. Miocic, où le premier combat entre Miocic et Ngannou, quand ils ont commencé la com, l'UFC, la machine, la production, le marketing, tout a été fait, le marketing, la promotion du combat, tout a été fait en faveur d'Ngannou. Ngannou partout, il envoyait la pub, c'était des KO de tous ses fights, ses soumissions, et surtout le KO qu'il a mis contre l'hypercut qu'il a mis contre Overeem. Là, Miocic, alors que c'était lui le champion, hein, c'était lui le favori, lui le champion, Miocic avait le seum sur ça, et ils ont pas fait comme du tout sur le champion. Et même ça a influencé les codes de Paris, où les codes de Paris ont mis Ngannou favori sur ce combat-là contre Miocic, alors que c'était Miocic était le champion actuel, où il avait balayé tout le monde à Verdum, Dos Santos, il me semble Velasquez, bon, il avait tapé tout le monde dans la catégorie. Et les odds et la promotion du combat, tout était fait en faveur de Ngannou. Et même quand Miocic a gagné le combat, Dana White a mis la ceinture autour de sa taille, tout de suite Miocic l'a pris, l'a posé, l'a pas gardé, l'a mis sur l'épaule de son coach. Il s'est barré, quoi. D'autres fighters qui ont un beef avec Dana White, c'est, souvenez-vous, Demetrius Johnson, Mighty Mouse. Alors lui, c'était le combattant déjà qui avait 10 ans d'avance par rapport à sa génération. Il était complet partout en striking, en boxe, en lutte, en jujitsu. Il finalisait tout le monde. Dans sa catégorie des poids mouches, ouais, les poids mouches, catégorie très légère, 57 il me semble, ouais, 57 kilos. Il finalisait tout le monde, il était sur un enchaînement de je sais plus combien de défenses de titre, et Dana White lui avait proposé un combat contre TJ Dillashaw en poids. Coq, le champion des poids coq, il proposait un champion pour faire un super fight. Demetrius Johnson a toujours refusé et ça, Dana White ne l'a jamais accepté. Il a même publiquement critiqué en donnant les statistiques des ventes de pay-per-view de Demetrius Johnson que c'était l'un des combattants, l'un des champions de l'histoire de l'UFC qui faisait moins de pay-per-view dans l'histoire. Il a mis publiquement ses ventes de billets à Demetrius Johnson. Et après, il y a eu le seum Dana White, il l'a obligé à combattre contre Demetrius Johnson, qu'il le veuille, contre TJ Dillashaw, qu'il le veuille ou qu'il le veuille pas. Un vrai dictateur, ce Dana. Mais juste après ça, Henri Cejudo est venu et a gagné la ceinture des poids mouches. Et Dimitrius Johnson a été remercié et est rebondi au ONE FC. Mais c'était un sacré combattant. Il y en a plein comme ça. Le combat entre Amanda Nunes, qui était championne à l'époque, et Ronda Rousey à l'UFC 209, il me semble. 209. Où Amanda Nunes était la championne. Et la com aussi, marketing, la promotion du combat, tout est fait sur le comeback de Ronda Rousey, l'américaine, la blonde, la meuf, elle a été championne de l'UFC, elle faisait des jujigatame à tout le monde, elle était dans toutes les séries télé, tous les films, Fast and Furious, tu la voyais partout dans les émissions, la meuf, voilà, elle a révolutionné le MMA féminin. Et la com, la promotion était surtout axée sur Ronda Rousey que Amanda Nunes qui était championne et qui voilà, qui était pas bankable mais qui était qui nettoyait tout le monde. Donc Amanda Nunes avait un peu le seum, même un peu à la fin du combat quand elle a détruit Ronda Rousey. Joe Rogan a fait une petite promotion sur Amanda Nunes, qu'il fallait la respecter, tatati tatata. Donc voilà, il y en a plein, il y a Ned Diaz, il y a GSP, s'est déjà embrouillé avec lui, il y a même Khabib qui s'est déjà embrouillé avec lui, enfin qui n'était pas d'accord sur des sujets. Bref, voilà. Hein. Maintenant, est-ce que Dana White était un tyran ou un businessman hors pair? Eh ben, honnêtement, déjà c'est pas vis-à-vis que de Rockhold. Dana White, il y a la philosophie du businessman dur. Il fait pas de sentiments avec son roadster, avec ses combattants. Il est pas là à vous dire ouais. Est-ce que t'as bien mangé, t'as bien dormi, est-ce que t'as bien voyagé, est-ce que t'as bien dormi, ça a été l'entraînement. Lui, il est pas là pour ça. Lui, toi, t'as une équipe, t'as un manager, t'as un entraîneur, t'as une équipe. Eux, ils s'occupent de toi, mais Dana White, c'est le boss. C'est le boss. Il est pas là à soucier de ce que t'as fait, ce que t'as pas bien fait, ce que tu t'es bien entraîné. Il s'en fiche. Lui, il voit le fight money. Il est là pour mettre un combattant dans le coin bleu, un combattant dans le coin rouge et faire de la vente. C'est une machine de fou l'UFC. L'UFC, les trois lettres, ils ont le monopole. Le monopole de l'entertainment du MMA et même les sports de combat. C'est-à-dire, quand tu as le monopole, tu décides de tout. Tu décides quoi. Monopole, ça veut dire qu'il n'y a pas de concurrence. Il n'y a personne qui peut dire « Ah, si je baisse un peu les prix ou si j'augmente un peu les prix », le concurrent direct, il peut me dépasser. Non, quand t'as le monopole, t'écrases tout le monde. Le monopole, c'est comme Apple, c'est comme Google, c'est comme Facebook, c'est comme chaque marque, chaque entreprise ont le monopole de quelque chose. Et quand t'as le monopole, comme Nike, quand t'as le monopole de quelque chose, tu choisis de tout. Tu choisis de. Si t'es pas content, si ça te plaît pas, va voir ailleurs. Et quand tu vas aller voir ailleurs, et ça va te faire bizarre quand tu vas recevoir ton chèque et te dire ah ben il manque des zéros. Et si t'es pas content en plus de ça, Dana White il s'en cogne, il s'en tape. Le gars t'as pas envie de combattre, ça te plaît pas, tu dégages, je vais te mettre de côté, je vais plus te calculer. Je vais faire un tough, je vais faire un Dana White Contender Series. Il y en a 30 dans ta catégorie qui vont vouloir un contrat. C'est ça le monopole, c'est tu choisis, tu contrôles l'offre et la demande. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de blabla. Donc ton amertume, ton sentiment, lui il s'en cogne pas mal. Ça va pas l'empêcher de dormir, ça va pas l'empêcher de faire son poker à Vegas. Il s'en branle pas mal, mais franchement, il s'en cogne pas mal. S'il doit se soucier de tous les combattants qui ont envoyé des textos, des messages, appeler les managers, les entraîneurs, dire si ça va le combattant, nanana, Il n'y a pas le temps, il va avoir une tête comme ça, au bout de 2 ans, il va clapser. C'est pas possible, c'est pas possible. Pour moi, franchement, honnêtement, hein, y a, dans les catégories, il n'y a que les superstars qui peuvent négocier, voir avec lui, prendre un peu le chou, le résister. Il n'y a que les superstars. Quand je dis les superstars, c'est vraiment des mecs qui vendent des pay-per-view de fou. Parce que lui, il regarde que ça. Il regarde les chiffres, les pay-per-view. Il s'en fiche de ta tronche, d'où tu viens, il s'en fiche. Lui, il regarde les pay-per-view, il regarde l'oseille. Si t'as un mec qui a du pouvoir, qui peut ramener de l'oseille, eh ben, il va prendre soin de toi, il va être à ton écoute, il va t'écouter, voir tes revendications, tatatitata. À part ça, il s'en cogne, mais pas mal. En parlant de superstars qui peuvent le tenir tête, il y avait GSP, même s'il n'a pas été toujours d'accord, Khabib. Il peut lui tenir tête un peu, bon maintenant il a arrêté. Et surtout encore pour moi, hein, le seul, hein, honnêtement, c'est Conor McGregor. Quand il y avait Conor qui combattait à l'UFC, regardez bien les interviews sur Conor, il lui brossait la patte, il arrêtait pas de parler en bien sur Conor ceci, Conor cela, c'était un gros combattant, irrespectueux, il a une vie de famille. Tatati, il y a un style unique, nanana. C'est le seul Conor qui peut lui tenir tête à Dana. Le reste, ça rentre par une oreille, ça sort de l'autre. Regardez la promotion qu'il a fait sur Conor contre Conor versus Mayweather en boxe. C'est le seul qui a fait ça, hein, Dana White sur un fighter, c'est pas tout le monde. Donc voilà, Dana White, ce qu'il veut, c'est prendre ton prime en tant que combattant. Tout ce que t'as fait, tout ce que t'as accompli, d'où tu viens, ta legacy, c'est bien, mais il s'en fiche pas mal. Il s'en conne pas mal. Surtout quand t'es un ancien champion et que t'es sur le déclin, c'est encore pire. Mais ton héritage, il va taper dans la main, il va dire c'est bien, mais il va passer next, il va rechercher la nouvelle pépite qui peut lui rapporter de l'oseille. C'est comme ça, c'est pas ton ami Dana White, c'est ton boss. Il y a eu l'interview que j'ai bien aimé de Cyril Gane dans le podcast AB Show là, avec Michael Obou. Ils lui ont posé des questions en disant ouais, qu'est-ce que t'en penses, t'es ton futur avec l'UFC, nanana. Moi j'ai bien aimé la réponse de Cyril Gane. Il a dit Dana White c'est pas mon copain, c'est mon boss, c'est mon patron. Toi à ton travail t'es pas copain avec ton boss. Et ben voilà, moi c'est la même chose, c'est mon boss mais c'est pas mon copain. Je vais pas partir en vacances avec lui, je vais pas faire un karting avec lui. Je m'en cogne. Voilà, c'était un petit podcast sur Dana White. Tout ça, grosso modo, pour dire Dana White, il s'en conne pas mal de ce que tu penses. Lui, il est là pour t'utiliser à ton prime. Dès que t'es sorti de ton prime, dès que tu ramènes plus trop d'oseille, il passe à autre chose. Et c'est normal, c'est toutes les entreprises qui sont comme ça. C'est dur, mais c'est la loi, la loi de l'UFC, c'est ça, c'est ce qui donne la direction de l'UFC et ça a toujours marché et c'est pas ça qui va, c'est pas demain la veille que ça va changer. Je vous laisse les amis, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube. Blabla Media est disponible sur toutes les plateformes audio, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer et Tutti Quenti. N'oublie pas les vals 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. Ça donne de la force. Allez, on se capte bientôt. See you les amis. Peace.